François Bousquet, est-ce que la théologie ne se passe qu'au ciel ?
Bien sûr que non. Pour moi, la théologie, c'est la foi réfléchie à travers la culture. Donc déjà, la foi elle-même, c'est un don de Dieu qui nous permet de nous conduire dans notre histoire. Le lieu même de la foi, c'est l'histoire. C'est-à-dire, c'est une confiance en autrui, en quelqu'un d'autre et une confiance en l'avenir. Donc déjà, c'est pas au ciel. C'est pas en direct avec Dieu. Et puis, on est en rapport avec lui conformément à notre condition. Déjà, la foi a rapport à l'histoire elle-même. Ensuite, la culture elle-même, elle est simplement le déploiement des potentiels humains à travers toutes sortes de figures d'humanité, à travers les continents et les siècles. Et la théologie, forcément, elle est cette réflexion de la foi, c'est-à-dire une foi pèlerine, cheminante, dans la culture elle-même, c'est-à-dire avec toutes les ressources de l'esprit, de l'intelligence, qui lui-même aussi est en recherche dans une histoire précise et qui bénéficie de ceux qui ont précédé, mais qui a aussi quelque chose d'innovant à dire. Vous voyez, donc non seulement elle est dans l'histoire, mais elle a une mémoire qui est une mémoire vive et non pas répétitive. Et ensuite, elle a une capacité d'innovation créatrice et d'adaptation à ce qui cherche de meilleur dans le temps. Voilà, pour moi, la théologie, c'est toujours en mouvement. Il y a du neuf à trouver et à dire aujourd'hui en théologie.
D'ailleurs, Yves Congar faisait toujours le lien entre théologie et histoire.
Surtout Chenu. Congar est un historien, mais Chenu est un médiéviste, mais théologien et philosophe qui, lui, a fait la théorie de la chose, mais il l'a fait à partir du geste intellectuel des très grands médiévaux, Thomas Bonaventure et Abélard et tous les autres. Et il disait ça, je l'ai connu hein, dans ces derniers temps, là, ces dernières années, il disait ça d'une manière très savoureuse. Et donc, Congar, Chenu, de Lubac, un des livres les plus puissants. Un jour, je lui ai dit, vous savez, votre méditation sur les L'Église, ça a nourri ma vie de séminariste. C'est un vieux livre, il avait déjà l'esprit ailleurs, il cherchait ailleurs. Bon. Mais quand il fait, par exemple, catholicisme, il a face à lui une dogmatique que j'appellerais une dogmatique maigre, qui se passe au ciel, effectivement. C'est-à-dire, ça, il y a vraiment, on descend sur la terre comme sur un porte-avions, mais pour vite repartir au paradis. Bon. Et lui, il fait un livre qu'il appelle catholicisme, sous-titre aspects sociaux du dogme, et pour montrer les aspects sociaux du dogme, c'est-à-dire dans la marche des peuples en avant, il va s'appuyer sur les pères et il fait un dossier historique bétonné, important, qui oblige ceux qui tiennent pour une théologie intemporelle à dire c'est pas possible, ceux qui nous ont précédés et en qui nous nous fions, les pères dans la foi, ont fait autre chose que nous.
Les pères dans la foi ont fait aussi une révolution. Et vous aussi, vous avez écrit un livre sur les grandes révolutions de la théologie aujourd'hui.
Oui, alors...
Qu'est-ce que c'est que ce mot « révolution »
Non, et je n'ai pas écrit le livre, je l'ai dirigé, mais et puis, le titre a été choisi par l'éditeur. Résultat, j'étais dans un colloque international à Vienne et il y a un collègue là-bas qui me dit « Alors, tu fais la révolution dans la théologie maintenant ?» Oh, j'ai dit « Moi, je ne fais aucune révolution, hein, je travaille simplement. » Mais par contre, c'est vrai qu'il y a eu des mutations extrêmement profondes. Et le but de ce livre était de montrer comment les mêmes chrétiens ou les mêmes catholiques, sur trois générations, donc c'est très court à l'échelle de l'histoire de l'Église, ont suivi et adopté et mis en œuvre des mutations tout à fait importantes dans le rapport aux fondamentaux de l'Église.
Par
les
exemple,
fondamentaux n'ont pas bougé, mais c'était le rapport qui changeait. Ben, par exemple, la lecture de l'Écriture. Il faut tout de même se souvenir que c'est assez récent. Pendant toute la période post-tridentine, la Bible, c'était les prêtres. On se méfiait comme la peste de la lecture par les laïcs de la Bible comme susceptible du libre examen. Et moi-même, encore tout petit, on est en 59, j'ai 12 ans, je suis au petit séminaire, et je dois faire signer au supérieur pour lire la Bible, ma vieille crampon, Bible inoffensive s'il en est dans les notes. Mais non. La Bible, ce n'est pas les gens qui la lisent. Donc ce retour de la Bible a été le rendre au peuple de Dieu. La lecture de l'Écriture, c'est quelque chose de fantastique, sans avoir peur de l'interprétation qu'ils vont faire, puisqu'ils font une lecture en Église. Voilà. Alors il y a l'éthique aussi, la morale. On voit très bien comment la différence de la morale chrétienne est amenée à se situer en rapport avec les évolutions de la morale publique et celle de la morale commune. En 1900, le sexe est tabou, est sacré, on n'en parle pas. Aujourd'hui, il est sur la place publique, dans tous les médias, etc. Donc ça s'est déplacé, en fait. En fait, le sacré, maintenant, c'est l'enfant. Et puis, plus fondamentalement, c'est la vie. Donc, on va avoir une éthique qui est une éthique de la vie, une éthique de la famille. Mais on ne va plus être bloqué dans une morale, j'allais dire, formelle, comme on pouvait l'être dans les années 1900. C'était pas touche, tabou. Vous voyez, ça a bougé. Le sens de l'Église, ajouter du corps à la hiérarchie, c'est pour ça que je ne veux pas opposer une ecclésiologie hiérarchique et une ecclésiologie du peuple, ça fait partie des sottises et des lieux communs qu'on n'arrête pas de répéter. L'Église n'est pas une démocratie, mais attendez, on n'a pas attendu depuis Saint Paul, on le sait, je veux dire, depuis le début, et depuis Pierre et Paul. Mais l'Église ne se réduit pas à sa hiérarchie, c'est un peuple, structuré hiérarchiquement, certes, mais surtout un peuple qui célèbre. Un peuple qui lit les Écritures et un peuple qui essaie de mettre en pratique la parole de Dieu. Et évidemment, il y a des fonctions, des offices, des charges, des ministères, etc. et des hiérarchies qui ont des fonctions tout à fait précises pour la vie de ce peuple. On a beau le dire dans les textes, les mentalités, ça bouge quand même plus vite que la dérive des continents, mais c'est long. C'est pas en une, deux ou trois générations qu'on en remonte six ou sept.
Quand voilà. Je vous entends, je pense à cette image du levain. Les chrétiens sont comme le levain dans la pâte, et on peut dire, en vous écoutant, la théologie, c'est comme le levain qui, dans la pâte de la science, de l'histoire, de la morale, va rejoindre ces domaines. On peut dire ça ?
Oui, sauf que l'inconvénient de l'image, c'est l'enfouissement. Il y a, dans l'intelligence de la foi, quelque chose qui, en même temps, simultanément, donne une intelligence du monde, de Dieu, de l'homme. Il y a la foi est facteur de connaissance et de reconnaissance d'une intelligence qui est une intelligence du cœur, dont on a énormément besoin, surtout depuis le XVIIIe siècle, dans les temps post-conscients et en période où une culture entière, mais c'est mondialisé maintenant, fait prédominer dans les puissances de l'esprit, non plus la sagesse qui prescrivait des valeurs, mais une science analytique, objectivante, et qui se déploie en technologie et en possibilité d'agir sur les choses, la matière, et même sur l'humain.
Vous parlez d'intelligence du cœur.
Oui.
Comment aujourd'hui, une des critiques justement que l'on entend de la part de certains, c'est qu'on n'arrive pas à retrouver ces lieux pour développer cette intelligence du cœur dans l'Église.
Ça, si ça n'existe pas, c'est un vrai problème. Alors, les lieux sont différenciés dans l'Église, si vous voulez, mais bon. La liturgie accomplit ça, mais d'une manière, j'allais dire, très synthétique et très compacte. Elle fait vivre le mystère de Dieu qui se déploie dans le temps. Elle le fait vivre dans l'assemblée qui est là, et dans le corps social, la durée. Et puis après, il faut le développer, il faut l'expliciter, il faut passer à une capacité de transmettre. La liturgie, elle est faite pour ceux qui sont initiés. Par contre, le discours lui-même, le discours théologique, il doit rendre accessible la foi à ceux qui ne la partagent pas déjà. Et donc, il faut qu'on puisse dire ça, mais dire de telle manière que l'autre puisse l'entendre dans sa langue à lui, et non pas lui déverser mon patrimoine fixé. Donc là, il y a tout un exercice qui est un exercice effectivement cordial. Je déplore la méfiance, c'est-à-dire le fait que on s'adresse à l'autre pour corriger son erreur. Alors qu'en fait, il s'agit avec bienveillance d'aller à la rencontre de l'esprit qui l'habite lui aussi comme tout être humain, et de voir ce qu'il y a de vrai, de saint, de beau dans ce qu'il vit, de lui demander de le prendre au sérieux, lui demander, comme on faisait autrefois pour les catéchumènes. On n'était pas en train de les plonger tout de suite dans le bain chrétien, on leur demandait de prendre au sérieux leur vie d'homme et de ce qui les avait amenés à la question de la foi. Et à partir de là, on avait un enseignement. Mais l'enseignement était une communication, c'était un acte de communication et non pas un acte d'information. On confond transmettre des vérités qui seraient des informations et une communication qui consiste à mettre en commun ce que nous vivons pour repérer où l'esprit agit, et comment on peut le nommer, comment on peut le recevoir, etc.
Et remettre au centre ce qui est fondamental au christianisme, à savoir la relation.
Absolument. Mais relation qui a un nom précis quand il s'agit de l'Esprit Saint, évidemment.